Pour 6 minutes à l'écoute des programmes d'Alger Chantre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir, les amis, de vous retrouver pour une émission spéciale. Spéciale découverte, sport, randonnée, trekking, marathon. On va bouger. C'est le retour des beaux temps, justement, pour pouvoir exercer toutes ces belles choses et partir à la découverte de notre beau pays. Joindre l'utile à l'agréable. C'est notre mission aujourd'hui sur Alger Chantre 3 et jusqu'à 11h en compagnie de Hakim Belmoussa, notre maestro à la réalisation, Imed, notre nouvelle génération à la technique, Yassine est au streaming et bien sûr Ikram à la régie d'antenne. Elle est là, elle regarde, elle ne rate rien. On s'écoute une belle petite chanson et on revient juste après. Je peux écouter Tina Riwen pendant une heure, les amis, incroyable. Merci beaucoup Hakim Belmoussa pour cette chanson, une belle introduction justement pour revenir à cette saison, la saison propice pour commencer justement ces petites aventures un petit peu partout à travers l'Algérie et notamment le sud et les portes du désert. La preuve, notre invité va nous raconter une histoire extraordinaire qui s'est déroulée il y a quelques jours, c'était le week-end dernier, ils ont eu l'honneur et le plaisir de découvrir ou de redécouvrir les balcons du Roufi ou toute la région à travers justement une randonnée de 30 km. Ça, c'est pas mal. Docteur Adkil Arras, bonjour.
Bonjour, Soraya.
Ça va, vous allez bien?
Alhamdoulilah, merci. Alors, merci pour l'invitation.
Vous êtes médecin, mais vous êtes surtout notre invité parce que vous êtes le président de l'UMTS. Voilà, l'Ultra Marathon Trail Swidania. Un plaisir de vous avoir avec nous.
Merci.
Alors, c'est le début justement de ces aventures. Il faut dire que des projets, il y en aura, et pour tout le monde.
Inch'Allah.
Et dernièrement, on va commencer justement l'introduction de cette émission par cette randonnée qui s'est déroulée le week-end dernier, 30 km dans les balcons du Roufi. Ça, c'est pas mal.
Oui, c'était un rêve qu'on avait depuis quelques années, donc faire une randonnée sportive tout le long du canyon du Roufi, mm-hmm. donc un canyon qui est d'une beauté exceptionnelle, un site exceptionnel, un site aussi difficile, donc où cette randonnée a eu beaucoup de succès. La meilleure preuve, c'était le nombre de participants, mm-hmm. Une quarantaine. Et je tiens à féliciter tous ceux qui nous ont rejoints, mmh. tous ceux qui ont participé à cette randonnée. Je vais leur dire que vous êtes des randonneurs confirmés. Pourquoi? Je ne sais pas jeter des fleurs, parce que le circuit, cette randonnée, était assez difficile. Mmh. Et la difficulté d'une randonnée est des paramètres pour coter une randonnée. Le premier paramètre, c'est bien sûr l'effort physique à faire. Donc une trentaine de kilomètres, dont deux à la fin, côte, dénivelé positif important. Deuxième difficulté, c'est la technicité du parcours. C'était mm-hmm. un parcours qui était très difficile, avec un parcours type galet. Donc il valait mieux avoir des très bonnes chevilles, des très bonnes chaussures, de la très bonne endurance. Ensuite, il y avait aussi le troisième paramètre, c'est le paramètre du risque, le risque psychologique, donc le risque d'accident qu'il fallait gérer. Donc c'est cette randonnée est une randonnée quand même assez bien cotée sur le plan mm-hmm. de la difficulté. Et je les félicite tous parce qu'ils ont tous fini et je leur dis, vous êtes des randonneurs confirmés.
Ça vous a pris combien de temps pour faire 30 kilomètres?
Entre les pauses, on a eu un contretemps aussi qu'il fallait gérer. Donc un contretemps qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Donc on a commencé vers 7h30 et on a fini vers 17h.
D'accord. Vous avez démarré d'où?
On a démarré au niveau du canyon, mm-hmm. Dans la commune de Ressira. Mm-hmm. La commune de Ressira, elle est dans la wilaya de Batna. Parce qu'on avait passé la nuit mm-hmm. dans une maison d'hôtes. Que les gens connaissent.
C'est pour vrai ceux qu'à qui ont... à quelques mètres, c'est la ville
de Bistra. Pratiquement sur le Ressira, elle est à côté Batna, mm-hmm. et elle est à 30 km pratiquement de la wilaya de Biskra. Mm-hmm. Voilà, donc nous, on a fait ce canyon, on a commencé à Batna, et on a traversé pour revenir ensuite sur Batna. Voilà, donc on a fait deux wilayas en une seule randonnée.
Magnifique.
Voilà.
Et comment on devrait justement amortir ou préparer ce genre de randonnée? Parce que là, il faut dire, docteur Larras, si on va sur Internet, on va trouver, par exemple, des sites ou des agences qui ont fleuri depuis quelques années et ils offrent justement ce genre de randonnée. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une organisation particulière, une préparation particulière? Est-ce que c'est tout le monde qui peut faire ce genre de randonnée?
Il y a deux choses à dire. La première, les randonnées ont été, il faut reconnaître ça, par les agences de voyage. Mm-hmm. Mais c'est des randonnées qui ne sont pas tellement sportives. C'est mm-hmm. des randonnées qui sont de difficultés simples, légères. Mm-hmm. C'est des randonnées qui sont pas trop difficiles, parce que d'abord, la distance n'est pas énorme. Mm-hmm. Deuxièmement, le terrain, donc c'est pas un terrain très technique. Donc c'est plus randonnée évasion, randonnée excursion, mm-hmm. que randonnée sportive.
Cela dit, docteur Lara, s'il y a des agences qui s'attaquent à ces phares, on connaît tous la difficulté de ces phares, c'est une vingtaine de kilomètres par jour. Comment on doit justement préparer ce genre de sortie?
Ces phares, c'est un cas particulier. C'est mm-hmm. une randonnée sportive, c'est une randonnée difficile.
Et pourtant, elle est organisée par des personnes qui ne sont pas dans le domaine médical où il n'y a aucune préparation, je veux dire.
J'espère. Moi, je connais mm-hmm. pas comment que ça fonctionne, comment que ces voyages sont organisés, mais j'espère que ces agences tiennent compte.
C'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. C'est très important.
Du facteur mm-hmm. santé, de la condition physique des participants à ce genre d'événement.
Les randonnées ne se ressemblent pas.
Ah non, il y a la randonnée simple, la plus facile possible, c'est 10-15 kilomètres sur un terrain plat, pratiquement moquette, où il n'y a aucun risque
de chute.
J'aime
bien le pratiquement moquette.
Voilà, c'est des randonnées d'initiation, c'est juste pour donner aux gens envie de bouger.
Et il y a la randonnée... On a besoin justement de bouger.
Voilà.
Faut-il commencer par ce genre de randonnée pour attaquer
Pour ceux qui ne sont pas sportifs. Pour ceux qui ne sont pas très sportifs. Donc pour les seniors qui veulent faire ce genre de choses, moi je pense qu'il vaut mieux commencer par les choses simples. Avoir un minimum de conditions physiques, mm-hmm. un minimum de stabilité des chevilles, parce que ça compte beaucoup. Donc mettre son pied sur un terrain plat et mettre son pied sur un terrain accidenté, c'est pas la même chose. Mm-hmm. Donc il faut avoir des bonnes chevilles, il faut avoir une bonne condition physique, il faut avoir un bon équilibre. Voilà.
Et où réside le danger, justement, quand on s'attaque à des randonnées qui ne sont pas à notre niveau?
D'abord la météo. Mm-hmm. Pour les gens qui ne sont pas habitués à faire des efforts, particulièrement quand la météo est chaude. La mm-hmm. météo, le facteur mm-hmm. chaleur, c'est un facteur important.
Donc pluie, chaleur, donc les extrémités.
Les extrémités, mm-hmm. mais particulièrement la chaleur.
Exactement.
La chaleur, c'est quand même un paramètre important, même mm-hmm. s'il ne rentre pas dans la cotation, mm-hmm. mais c'est un paramètre important. Mm-hmm. Faire une randonnée à 15 degrés et faire une randonnée à 30, c'est pas la même chose. Mm-hmm. C'est pas la même chose. La chaleur est quand même un paramètre dont on doit tenir compte. Ensuite, il y a le terrain. Le terrain est important. Un terrain accidenté, c'est un terrain qui demande de la concentration, de l'effort physique, de la stabilité, de l'équilibre, demande tout ça. Mm-hmm. Et donc, quand il y a ce genre de choses, moi, je pense qu'un encadrement est important pour guider. D'abord, avertir mm-hmm. les gens, leur donner un briefing pour les choses qui les attendent et surtout les encadrer durant la course pour qu'il n'y ait pas d'accident, parfois fâcheux. Donc, les encadrer, les conseiller, les mener, toutes ces choses-là.
Bilan santé avant?
Oui, ben, quand on connaît les personnes, quand c'est des personnes qu'on connaît qui sont habituées à ça, il n'y a pas de souci.
Moi, je reviens à ces phares parce qu'il est devenu très tendance en ce moment. C'est tout le monde qui veut justement découvrir cette région. Oui. Et c'est une centaine de kilomètres à pied.
Oui, en l'espace d'une semaine, 10 jours comme ça.
Et quand on ne connaît pas un petit peu son état de santé, ça peut...
C'est difficile, même pour ceux qui ont une bonne santé.
D'accord.
Parce qu'on fait 20 le
Moi
premier jour.
Moi qui voulais m'attaquer à ces phares.
Le lendemain, on repart, mais on a déjà 20 km dans les jambes. Mm-hmm. 2 jours après, on a 40 km. Donc, on ne démarre pas toujours à son meilleur niveau de santé. Donc, il ne faut pas voir le premier jour. Il faut voir le 6e, 7e jour. C'est-à-dire c'est quand on a déjà des dizaines de kilomètres dans les jambes, d'efforts d'endurance et faire le même effort. Donc, c'est ça le plus dur. Les accidents n'arrivent pas au début. Elles arrivent un peu plus tard.
Donc, si on doit commencer, il faut toujours favoriser les petites randonnées sympathiques.
L'initiation.
Oui, une initiation.
Et monter.
De préférence avec un personnel qualifié, je veux dire, adhérer à des clubs.
Mm-hmm. Il est fortement recommandé pour les randonnées pédestres mm-hmm. de le faire dans un cadre organisé, mm-hmm. encadré. Mm-hmm. C'est préférable. Pourquoi? Parce que ces randonnées, donc on a des gens qui ont de tout âge. Mmh. Maintenant, si c'est des randonneurs qui sont tous jeunes, c'est un groupe d'amis jeunes, sportifs.
Intrépides.
Il n'y a pas de souci, mais nous on est... La sécurité 100% n'existe pas. Mmh. Un accident peut arriver même à des personnes aguerries. Un jeune sportif aguerri, il peut faire un accident, c'est la fatalité. Mm-hmm. Mais quand c'est des agences ou bien des clubs comme nous qui faisons ça, donc on ne fait pas le tri selon l'âge, on ne filtre pas les gens selon l'âge. On les filtre sur le critère de la condition physique et de la santé. Mm-hmm. Rofi, enfin, pour le week-end passé, quand on a fait notre randonnée, le Benjamin avait 17 ans, c'est un candidat au bac, Il était venu avec son père.
Nahi Belek.
Et c'est une super découverte. C'est un très, très, très bon petit. Mm-hmm. Magnifique. Le doyen avait 80 ans.
Il a fait les 30 kilomètres.
Il a fait la randonnée difficile, sportive et difficile.
Pour ne rien vous cacher, moi, je suis descendue et je suis remontée difficilement.
Voilà. Donc, pour vous dire.
C'est pas évident, c'est vrai.
Il y avait des dames, il y avait un bon quart de dames, des dames qui avaient autour de 50 ans. Donc, il y avait des hommes qui avaient 60, 70 ans, un peu plus jeunes. Pour vous dire que le filtre, c'est plus, on ne filtre que sur la condition physique, sur l'aptitude de la personne à faire cet effort.
Donc, il faut aller chez un généraliste pour faire un petit check, pour voir
si
tout va bien.
Bien sûr.
Ça, c'est obligatoire.
Oui, à partir d'un certain âge, quand on fait la pratique d'une activité sportive, il est évident, surtout quand c'est une pratique assez intense qui demande de l'effort. Moi, je pense qu'il vaut mieux s'assurer chaque année qu'on a la santé qu'il faut. Ensuite, quand c'est des challenges difficiles, comme cette randonnée, donc en plus de la bonne santé, il faut aussi avoir la bonne condition physique, l'habitude de ces difficultés. On peut avoir un bon cœur, mais pas de bonnes jambes pour finir, pour monter, pour escalader. Donc c'est une affaire aussi physique et musculaire. Avoir une bonne musculature, il ne suffit pas d'avoir un cœur solide aussi. Voilà.
Quand on a un bon cœur, des jambes qui arrivent à tenir le coup...
C'est bien pour le médecin qui encadre la course. Il n'aura pas de problème cardiaque.
Vous n'avez pas eu de problème?
Non, pas ça. Alhamdoulilah.
Et comment on choisit justement les lieux?
Très bonne question. Très bonne question. Les critères du choix d'un site, donc ce site doit cocher plusieurs cases.
Il y a un canevas?
Oui, oui. La première case, bien sûr, c'est la beauté du site.
Joindre l'utile à l'agréable, on l'a dit tout à l'heure, c'est découvrir et profiter.
Découvrir un beau site, une belle région, une belle montagne et tout ça, c'est important, c'est l'objectif numéro un. Ensuite, le reste aussi doit suivre. Deuxième critère, deuxième case à cocher, c'est un guide de préférence
local. Un guide local.
Un guide local, donc bien sûr quelqu'un qui a une bonne moralité et surtout quelqu'un de sportif et qui connaît parfaitement les lieux, donc les endroits où il y a risque, où il n'y a pas. Donc, et troisièmement, malgré tout cela, en général, moi et les membres du bureau, que je salue d'ailleurs, les membres du bureau, j'avais promis de les saluer parce que
c'est
des gens formidables et qui ont fait un formidable boulot le week-end dernier. Donc, je les salue, les membres du bureau. Donc, il y a aussi la reconnaissance du parcours. Le guide est une chose. Nous, c'est autre chose aussi.
Ah, donc vous avez fait une reconnaissance
avant. On connaissait
l'endroit. Très bien.
Ah oui.
On ne s'aventure pas.
On est obligé de faire ça.
Exactement. Quand on a la responsabilité, justement, d'une quarantaine de personnes.
Ah oui, on est obligé de faire ça. Donc, reconnaître, même si le guide est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui est de crédible et tout ça, mais nous on préfère s'assurer parce que le guide ne sait peut-être pas qu'on a des dames de 50 ans, qu'on a des gens, des seniors de 60, 65 ans. Donc nous, avec l'expérience maintenant, on a quand même du recul et on peut choisir des parcours.
Vous connaissez aussi les capacités de ceux qui ont l'habitude de sortir avec vous.
Sécuriser. Le côté sécuritaire de la randonnée, du parcours est notre...
Sport, découverte, plaisir, surtout.
Oui, et notre obsession, la sécurité.
Et on vise le zéro risque.
Le zéro, qui n'existe pas, mais on essaie de tendre vers cet objectif. Donc, la sécurisation du parcours est une obsession. Voilà. Et le parcours peut changer. La météo peut vous faire changer un parcours. Un parcours par un temps sec et un parcours par un temps de pluie, c'est pas la même chose.
C'est pas évident,
voilà. On doit intégrer tous ces paramètres pour essayer ensuite de dire est-ce que c'est un parcours qu'on peut ou qu'on peut pas faire.
On va encourager les jeunes, on va leur dire oui, vous vous êtes lancés dans cette aventure, l'organisation justement de ces sorties, mais il faut faire très très attention, il faut vraiment être à cheval et suivre justement les conseils de notre invité, le docteur Larras.
Ces conseils sont connus, les gens, les randonneurs savent les risques qu'ils courent. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Maintenant, il faut quand même qu'il fasse preuve de beaucoup de vigilance. Mm-hmm. Donc la vigilance maximale, c'est important, c'est très important. Parce qu'on peut avoir un accident sur une année, mais c'est un accident de trop.
J'imagine.
C'est un accident de trop, et voilà.
Je ne sais pas si je peux appeler ça un phénomène de mode, mais depuis quelque temps, les semi-marathons, les marathons ont commencé à fleurir un petit peu partout en Algérie, notamment celui qui a été organisé en été, le petit trail urbain et tout, qui avait drainé beaucoup de monde. Donc aujourd'hui, on essaye, les jeunes aussi s'intéressent. Il y a un marathon qui sera organisé dans quelques jours.
Un semi-marathon d'Alger.
Exactement, d'Alger. Et donc, j'ai vu beaucoup, beaucoup de jeunes qui s'intéressent justement à cette discipline. Si on devait revenir sur ça, docteur Larasse.
Il y a beaucoup qui fleurissent parce qu'on était un terrain vierge aussi. Hein. On n'avait rien. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, il n'y avait rien. On était vierge, on était très en retard.
Et vous n'étiez pas nombreux sur les routes.
Voilà, pour les rares événements qui se faisaient, on était rares aussi, les participants. Et voilà, ensuite, il y a eu une prise de conscience, un réveil après un coma sportif, un coma de course à pied qui a duré des décennies. On était très, très en retard. Mm-hmm. Il y avait pratiquement rien du tout.
Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont justement pris l'initiative de s'inscrire. Si on devait leur donner quelques conseils. D'ailleurs, il est avec nous, Monsieur Hamid Ouared, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Soraya, bonjour le steak. Les invités, chers auditeurs, bonjour.
Ça va, vous allez bien?
Ça va très bien, alhamdoulilah.
Eh bien, vous allez participer avec nous parce que vous aussi, vous êtes en train de préparer un événement. Ça sera pour le 5 décembre, Inch'Allah. Mais nous, on va juste s'arrêter à cet événement, l'événement du semi-marathon d'Alger, qui draine énormément de personnes, notamment les jeunes, qui ne savent pas sur quelle aventure ils vont parcourir. Si on devait commencer à leur donner un petit conseil.
C'est de s'entraîner régulièrement, bien sûr, et de ne pas...
On va commencer par monsieur Larasse.
Ouais, d'abord, ces jeunes, d'abord, je leur dis bravo. Ils s'intéressent au sport,
J'ai rencontré un groupe d'à peine une vingtaine d'années. Hein.
Voilà, donc c'est bien, c'est très bien. Donc, faire de la course à pied, c'est magnifique. Deuxièmement, donc, j'espère qu'ils vont durer dans le temps. Donc, s'entraîner et faire des semis, des courses un peu plus longues. Ils sont jeunes, ils ont l'avenir, ils ont tous les challenges à faire. Ils sont chanceux. Voilà.
Justement, c'est ça aussi, comment ces jeunes. Monsieur Hamid Ouared, si on devait un petit peu s'adresser à ces jeunes qui font leur baptême.
Justement, pour quelqu'un qui fait une première course, déjà, ce qui est intéressant justement sur ce semi-marathon d'Alger, c'est qu'on a deux distances. Il y a un 10 km et il y a un semi-marathon à 21 km. Donc du coup, le conseil qu'on peut donner, surtout pour les débutants, est de prendre surtout du plaisir et de ne pas voir sa montre. Et je pense que Dr Larasse est du même avis. Pour une première fois, c'est le plus important, c'est de franchir cette ligne d'arrivée, ne pas se donner cette pression de chrono et tout, laisser tomber le chrono, prendre du plaisir. On a l'avantage d'avoir une très belle capitale et prendre du plaisir justement en courant dans les rues de notre belle capitale et vivre surtout cette ambiance qui est vraiment particulière. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de courir, de vivre. On était en déplacement, le trail urbain. Ça va être un petit peu la même ambiance. Donc, un max de plaisir, moi, ce que je dis aux jeunes.
Et ben justement, est-ce qu'on a le droit de marcher un peu?
Marcher, oui, bien sûr, si on ne se sent pas bien. Bien sûr qu'on a le droit de marcher. Il n'y a pas de règles bien spécifiques pour courir. On peut courir, marcher, bien sûr, si on ne se sent pas bien. Le temps de laisser le coup de mou avec, il passe, et on peut repartir juste après.
Très bien. Et est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas moi, est-ce qu'il faut s'entraîner au moins un petit peu avant, docteur Larasse?
Oui, c'est préférable. Il ne faut pas s'entraîner juste pour le semi, il faut s'entraîner pour sa santé. Et voilà, donc s'initier même pour une courte distance de 10 km. Pour un jeune, faire 10 km, même sans entraînement, ne devrait pas poser de problème. Il a sa jeunesse, comme à tout. Mais faire une course, c'est, comme l'a dit notre ami Hamid, c'est se faire plaisir. apprécier la course à pied, mm-hmm. apprécier les rues d'Alger. Lui, il a pas eu la chance de faire le trail urbain, mm-hmm. mais je suis sûr qu'il y pense pour le prochain. Il a dû le cocher.
Ça y est.
C'est une expérience formidable.
Il a été coché par plusieurs personnes.
Voilà.
C'est vrai que c'est un trail qui a eu un succès extraordinaire.
Oui, oui, il a été bien vendu, il mm-hmm. a été bien...
Très original, en plus, oui. Même le tracé.
Oui, mm-hmm. voir les ce qui est à voir à Alger.
Voir la Bidaya, les voûtes.
Là, voilà, ensuite, les autorités mm-hmm. ont participé, enfin, ont permis justement l'accès à ces endroits qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de voir si ce n'était pas cette course. Voilà. Donc, le plus important pour ceux qui débutent, mm-hmm. c'est d'apprécier, c'est d'attraper le virus de la course à pied, de l'effort, du sport et contaminer autour d'eux. Donc, donner ce virus autour d'eux, à leurs frères et sœurs, à leurs collègues, à leurs copains, copines, ainsi de suite. Voilà.
Monsieur Hamid Warden.
Oui.
Vous êtes toujours là. Comment vous avez eu l'idée, justement, de lancer ces innombrables, on va dire, activités hyper high-tech? Donc, vous avez été à la tête, justement... d'un événement hyper important. Il y a le ASRO, il y a un événement qui se prépare aussi pour le 5 décembre.
En fait, nous sommes un groupe d'amis mm-hmm. justement passionnés où on s'est tous retrouvés sous la houlette d'une association que j'appelle moi.
L'association Gaïa. Mm-hmm.
Non, l'association mère déjà, que je connais bien, c'est l'ASBAC, c'est l'association mm-hmm. Bouchnaoui Athletic Club. Mm-hmm. C'est là-bas où on s'est connus tous. On a goûté à l'esprit associatif sportif il y a une bonne quinzaine, voire vingtaine d'années. Et à partir de là, bien sûr, chacun y essaie de voler de ses propres ailes. Il y a eu l'association Dr. Israël, l'UMTS. Mm-hmm. Ben là, on est arrivé après Gaïa. Même si on était avant, on s'était organisé comme un collectif d'amis passionnés de course à pied, mm-hmm. et en particulier de trail et d'ultra-fond. Et à partir de là, l'UMTS a vu le jour, puis Gaïa. Et là, on travaille vraiment en étroite collaboration entre nos différentes associations pour essayer de mettre en place ce genre de projet. Voilà.
Si on devait revenir un petit peu sur les trails, c'est quoi un trail?
C'est une course en dehors des routes.
D'accord.
Une course en dehors de la route.
Très bien.
Vous sortez
c'est pas comme
bitume.
Le marathon.
Non, le marathon, c'est une distance.
C'est une distance, très voilà. bien.
Mm-hmm. C'est le trail, c'est une course en dehors de la route. Vous sortez du goudron, du bitume, et vous êtes dans le trail. Voilà. En général, c'est la montagne.
Plus difficile.
Bah oui. Voilà, en général, c'est en montagne, en général. Voilà.
Ça, c'est pas mal. C'est génial. En plus, c'est vraiment la saison.
Oui, mm-hmm. Du fait de la météo chez nous. Donc, c'est maintenant. Automne, mm-hmm. printemps, c'est les deux saisons qui s'y prêtent
donc
le
mieux.
Donc,
si on a envie de prendre du plaisir, de rentrer en connexion avec la nature, il n'y a pas mieux que les trails, de prendre les petits sentiers.
C'est maintenant. Mm. Par rapport à la météo, quand il fait chaud, la chaleur, c'est quand même un handicap important.
Effectivement.
C'est très difficile.
Effectivement. Monsieur Warden, si on devait revenir un petit peu au 5 décembre.
Je voudrais juste apporter une mm-hmm. petite correction mm-hmm. pour le docteur par rapport à la définition de ce trail. Mm-hmm. Le trail, justement, c'est nouveau, ça date d'une trentaine d'années, on va dire. Mm-hmm. Nous, on est un petit peu en retard par rapport à cette discipline, puisque les premiers trails, c'était le groupe Trail, et puis il y avait nous sur le trail Azonto. Le trail, par définition, comme c'est une discipline qui fait partie de l'athlétisme, c'est la World Athletic qui gère cette discipline. Mm-hmm. C'est une course, c'est une compétition de course à pied qui se déroule en nature. En nature, entre parenthèses, ça peut être la montagne, ça peut être le désert, mm-hmm. ça peut être la plaine, ça peut être la forêt. Et il y a justement là une dernière variante, c'est le trail urbain qui a vu le jour il y a une dizaine d'années dans une ville en France. Et du coup, ça a bien donné. Et nous, on a la chance d'avoir une très, très belle capitale où on a pu voir ce trail urbain, l'ampleur et le succès de ce trail. Voilà.
Excellent.
Pour ce qui est de la backyard, la backyard ultra, c'est quoi la backyard ultra? Il n'y a que les amateurs, on va dire, entre parenthèses, d'ultra-fond qui ont entendu parler de ce concept de backyard. C'est un concept américain qui a vu le jour au Tennessee. par un certain Lazarus Lake, qui est un adepte de concept un petit peu hors norme, puisqu'il a aussi un autre concept qu'on va en reparler une autre fois. Pour la backyard, en fait, c'est un tour de 6,7 km. Et 6,7 km, c'est bien précis. Parce que pourquoi 6,7? C'est le tour de la propriété de ce monsieur, Lazarus. Voilà. Mm-hmm. C'est le tour de propriété, il fait 6,7. En fait, il a créé cette course. Chaque heure, on a un départ pour faire le tour de 6,7. Et le gagnant, c'est celui qui aura fait le plus de tours, c'est-à-dire le dernier homme debout, c'est-à-dire juste à l'épuisement. C'est-à-dire elle n'a pas de limite, cette course. Donc, c'est ce qu'on appelle en français le dernier homme debout.
Voilà. C'est incroyable, ça.
Ah ouais, ça peut. D'ailleurs, ça fait pas longtemps, ça fait une dizaine de jours, il y a eu les championnats du monde de cette backyard.
Ils ont fait combien de tours?
Ils ont fait 118 tours.
118 tours en une journée?
Non, pas en une journée. Il y a un départ chaque heure.
Très bien.
Ils ont fait un départ un samedi et le dernier homme debout a tenu jusqu'au jeudi. Il a couru du samedi au jeudi sans arrêt.
Est-ce qu'on dort? On ne dort pas dans toute cette histoire, non?
Jour et nuit. Ils font ce qu'on appelle des micro-siestes. C'est-à-dire ils font à chaque fois des micro-siestes de 5-10 minutes pour récupérer. Même pas 10 minutes, ils n'arrivent pas à 10 minutes. Mais c'est vraiment, c'est un très, très gros entraînement. Hein.
Pourquoi? Donc,
pour arriver à ce...
Pourquoi?
C'est des courses de dépassement. C'est des dépassements de soi. C'est des courses
c'est vraiment des challenges.
Incroyable. C'est des challenges. Et lors de ces championnats, il y avait 63 pays qui étaient représentés. Mm-hmm. Et du coup, nous aussi, on a un champion national. Ici, parce qu'on a fait déjà cette backyard en 2024. Et là, c'est une autre édition qu'on va lancer justement en collaboration avec la Wilaya d'Alger.
Très bien. Ça sera le 5 décembre, c'est ça?
Ça sera le 5 décembre sur les sommets des Sablettes. Même ceux qui ne vont pas courir peuvent venir voir.
Encourager, donner
même un coup de main pour l'organisation.
Donc, vous allez faire la même chose?
On va faire la même chose ici sur le
départ.
Chaque heure.
C'est pas évident. Moi, je ne vais pas rater cet événement.
On vous invite à venir. Voilà.
Mais moi, j'invite toutes les personnes qui sont là.
Oui, bien sûr. Il y a le trail aussi qui est dans le staff médical de cette backyard.
Moi, je sais que vous travaillez toujours en étroite collaboration. Quand, bien sûr, monsieur Larras n'a pas d'obligation. Ouais. Ben, justement, comment on doit faire pour s'inscrire? Quand on est assez intrépide.
En fait, c'est un genre de course où il y a une grosse logistique. Uh-huh. Donc, on a un nombre de places assez limité parce qu'il faut préparer des nids de camp, parce qu'il faut préparer la partie nocturne où les athlètes doivent se reposer un petit peu, même si c'est pour 5-10 minutes. Uh-huh. Donc, on a toute une logistique à préparer en collaboration justement avec la DGSL d'Alger et la Ligue d'athlétisme d'Alger, ainsi que la Fédération algérienne d'athlétisme. Donc, on lance bientôt, on a lancé la date, le 5 décembre, et au courant de la semaine, on va lancer les inscriptions. Tout se passe en ligne, parce qu'on a un site...
Des inscriptions limitées.
Des inscriptions limitées, oui. C'est un nombre de places limitées, on va dire. En fait, aussi, on a instauré un petit peu des critères pour accéder à cette course, parce qu'on ne peut pas... Parce que ça reste des courses un petit peu exigeantes, et on ne peut pas... entre parenthèses, accepter tout le monde sous risque d'avoir des problèmes, des soucis de santé pour certains et tout.
J'imagine.
Tout est examiné, au fin de temps, voilà.
C'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Warden. Oui, ouais. Dr. Warden. Je salue Dr. Warden aussi, s'il est à l'écoute. Mais Dr. Warden, merci beaucoup. Et donc, est-ce qu'on peut avoir le site?
C'est Gaïa Athletic Club. Mm-hmm. Donc, au courant de la semaine, Inch'Allah, on va lancer les inscriptions. Tout se passe en ligne via un formulaire ou avec un petit certificat médical. On va examiner tout ça, les critères. Et on va prendre les 100 personnes. En fait, il y aura 100 personnes
qui
sont inscrites. Voilà.
Incroyable. Ça va, vous allez trouver 100 personnes pour faire ça.
Ouais, ouais, wow. Largement, largement. En plus, juste un petit détail, un dernier détail. Uh-huh. Et les meilleurs de cette course, uh-huh. Le vainqueur de cette course du 5 décembre, ainsi que les meilleurs, seront qualifiés
pour le challenge international.
Voilà, pour participer au championnat du monde de backyard par équipe. Voilà,
166 tours. Oula.
Voilà, ouais.
Bah c'est génial, ben oui. Ben, voilà. Un rendez-vous à ne pas rater. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hamid
Merci
Werden.
Merci
pour tout ce que vous faites, docteur Larraz. 166 tours pendant 6 jours.
Oh, ça, c'est, des,
c'est possible.
C'est des cours.
Est-ce que c'est possible pour les communs des mortels?
Non, c'est des,
voilà.
C'est des courses et c'est des coureurs mm-hmm. hors normes. Hors normes. Bah, 166, ça, c'est
les
le meilleur.
Les Avengers.
C'est des coureurs, c'est des courses hors normes. Voilà. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait 166 tours. Voilà.
C'est, moi, je veux voir, justement. Je veux assister
c'est
à cette
expérience.
Course.
C'est une expérience. J'ai eu l'honneur, justement, mm-hmm. de faire partie de son staff médical l'an passé. Et j'ai beaucoup appris en tant que médecin. Mm-hmm. Donc, j'ai encadré la course en tant que médecin parce que ce genre de courses sont rares. Il n'y a pas trop de documentation, il n'y a pas trop de choses écrites dessus. Mm-hmm. Donc, le fait d'avoir participé en tant que médecin...
Les premières éditions, on va tâtonner un petit peu pour voir où on est la situation.
Oui, c'est apprendre.
Ouais. Et on rectifie au fur et à mesure.
On apprend, on s'enrichit, les difficultés, les dangers, comment gérer un athlète, comment voir qu'il est, qu'il va avoir des problèmes. J'ai énormément appris lors de cette course. Énormément.
Ça, c'est génial. On a fait combien de tours? Pour 2024.
Alors le premier, en fait, le principe de la course, c'est mm-hmm. le dernier en vie. C'est-à-dire, c'est une course par élimination, par
Exactement.
Abandon.
Ouais, voilà. Ça me rappelle les gladiateurs.
Exactement. Donc c'est une course par élimination. Et donc voilà, au fur et à mesure que les gens se fatiguent, abandonnent, jusqu'au dernier qui reste en vie. Donc mm-hmm. c'est le dernier.
Il a fait combien de tours à peu près? Vous avez les chiffres?
Il a fait, non, je vais vous dire en heure, uh-huh. il avait fait plus d'une journée, ça c'est sûr, uh-huh. plus de 24 heures, il avait fait 25 heures. Okay, là. Alors 25 x 6,7. Voilà.
Donc, c'est
ah oui, 25 ou 26 tours, je me rappelle.
Ouais, il faut le faire.
Ah oui, oui.
À la Hibedek. J'aimerais bien le rencontrer celui-là.
Ah, oh, c'est un garçon formidable. C'est
un garçon formidable. Une petite cellule pour la greffer quelque part. Moi, j'ai bien envie de bouger autant.
C'est un garçon formidable, vainqueur mm-hmm. de l'an passé, d'une gentillesse, d'une humilité. Il faut voir. Je l'ai eu à la fin parce que moi, j'ai eu le dernier cas parce qu'il y avait une équipe, on travaillait à tour de rôle. Et moi, j'étais justement sur la fin. C'est là où c'est au questo.
Ah, oui.
Les gens sont fatigués. J'ai énormément appris.
Ils ne s'endorment pas.
Ils dorment, enfin, très peu.
C'est ça.
Très peu.
10 minutes.
Pour ceux qui ont du temps. Mm-hmm. Parce qu'il faut avoir ces 10 minutes.
Exactement.
Parce qu'en une heure, il faut faire 6
km.
6 km
et avoir justement le temps pour récupérer.
Voilà.
Ça, c'est.
Ah, c'est une formidable course. Et puis, Hamid, d'abord, c'est un garçon formidable dans la vraie vie. Mm-hmm. Moi, je le connais dans la vraie vie. Ensuite, en tant qu'organisateur d'événements. Et qui a une énergie, qui a une. Des projets plein la tête, extraordinaire. C'est un gars formidable.
Continuez à collaborer, à faire du bon boulot. Elle est avec nous, elle s'appelle Warda et elle vient de terminer justement une aventure extraordinaire du côté de Janet. 15 jours de marche, Warda, bonjour.
Oui, bonjour Soraya, bonjour tout le monde.
Ça va Warda?
Oui, très très bien. Donc,
alors les amis, Warda est en direct avec nous de Tel Aïn Khaled, c'est du côté d'Awqas, une très 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 belle région et vous avez justement cette possibilité de profiter de la nature. Et tous les jours que Dieu fait, c'est incroyable. Warda ne se fatigue jamais. Quel est votre secret?
Oh, bah écoutez, c'est que je suis une passionnée de voyage et de randonnée et de la nature. Donc, ça me rend riche en expérience et riche intérieurement. Donc, c'est peut-être un de mes secrets, mais pas que.
Ben Warda, si on devait commencer par le commencement, à quel moment vous avez décidé de tout laisser tomber pour laisser libre cours à ces pulsions de vouloir partir à la découverte?
Alors, ça fait tout simplement depuis 3 ans. Donc, lors de ma retraite, j'ai décidé de partir.
Magnifique.
Parce que je suis native de France. Mm-hmm. Et j'ai décidé de venir découvrir mon pays, l'Algérie. Mm-hmm. Et là, je suis tombée, on va dire, la potion magique, la randonnée où j'ai rencontré des randonneurs. Et depuis, ben, je marche.
Et c'est vrai que depuis 3 ans, Warda est partout. C'est incroyable.
C'est vrai. C'est vrai, j'adore l'Algérie, j'adore les paysages, j'adore la culture, j'adore la découverte. Et puis, je suis peut-être aussi curieuse de nature et j'aime ça surtout, j'aime ça.
Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que vous faites des checks de temps en temps pour voir la situation par rapport à votre santé? Parce qu'on a un médecin qui tient absolument à ce qu'il y ait des checks de temps en temps.
Oui, bien sûr. Alors, j'ai cette facilité, mais en même temps, moi, je suis coach aussi en développement personnel et professionnel, et je me suis beaucoup intéressée donc à mon corps physique, mm-hmm. et je privilégie bien entendu la nourriture. Ça fait des années que j'essaie de manger sainement, tout au moins, de bien dormir, d'avoir un rythme de vie, de bien respirer, et surtout faire des mouvements, en fait. Des mouvements, quels que soient les mouvements, hein, ce ne fait pas spécialement de la course ou bien, mm-hmm. Ou bien de la randonnée, ça peut être aussi du yoga, ça peut être des petits mouvements, mais je suis toujours en mouvement, ou de la piscine, ou de la plage, là, puisque je profite de la plage ici à Tadakhalad.
Ben justement, quand vous êtes revenu en Algérie, vous avez privilégié Tel Khaled se trouve à Oukaz, donc vous avez privilégié justement ce village. C'est vraiment voulu s'installer, oui. Au cœur de la nature.
Absolument, parce que c'est entre terre et montagne, et c'est ce que j'aime en fait. C'est ce que j'aime. La terre, donc bien sûr, les rencontres avec les personnes, etc. La mer qui est à proximité. Et auquel tous les matins, ben, je vais faire quelques pas ou quelques brasses, hein, mm-hmm. quand ça permet. Et puis la montagne, bien sûr, je suis au pied de la montagne. Donc là, je me régale à prendre de l'altitude, à marcher à mon rythme ou aller plus vite. Et puis parfois, ben, faire aussi de la course. J'adore. J'adore courir aussi. Donc c'est une de mes passions aussi.
C'est génial. C'est génial. Si on devait revenir un petit peu sur votre dernière aventure, 15 jours à Djanet, vous avez principalement marché.
Oui, oui, oui. Alors, ça a été 15 jours exceptionnels à Djanet. Alors, ça s'est séquencé en trois temps, puisque mm-hmm. au total, on a dû faire environ 150 kilomètres. Donc, le premier temps, ça a été Tadra Rouge, donc, on a fait à peu près 60 km en 6 jours. Donc là, c'était plutôt de l'alternance entre le 4x4, la marche, la découverte, etc. Et puis, bien sûr, cette fameuse dune de Tin Merzouga là, qui culmine à 1300 mètres d'altitude.
Exactement. Tin Merzouga, Moulinaga, genre, je veux dire, ça reste quand même les points phares, ouais. de Djanet.
C'est une ascension qui n'est pas facile, hein, tout de même.
Tout à fait.
Hein, parce que, elle est quand même prenante. Au départ, on a l'impression, allez hop, on va y aller tout chaud, tout droit, là, on va monter sur le sommet.
Mais j'ai failli mourir au beau milieu, j'ai failli mourir.
Je comprends.
J'ai failli mourir. J'arrivais même pas à respirer, c'est pas évident.
Oui, c'est ça, en fait, il faut y aller comme à la montagne, hein, il faut faire des zigzags.
Tout à fait.
Je vous rassure, moi aussi, arrivée au sommet, je suis arrivée en rampant. Donc vraiment en rampant.
C'était mon cas aussi.
J'ai mis près de 45 minutes à y arriver parce que je voulais absolument atteindre
le sommet.
Mm-hmm. Et puis surtout voir ce coucher de soleil. C'était mon objectif.
Extraordinaire.
En fait. Alors c'est ça aussi, c'est le mental qui joue beaucoup, hein, mm-hmm. sur la santé, sur notre corps physique, etc. Je crois que quand on a le mental aussi, on a des dépassements de soi et bien sûr on fait attention à notre corps. Hein, c'est important de s'hydrater, de notre corps, et puis de boire et puis de faire attention.
Et vous avez fait aussi le plateau d'Ehrir.
Waouh, alors ça a été quelque chose d'incroyable. Mm-hmm. Alors là, c'est 4 jours en 80 km, même plus. Et c'était un plateau, mais vraiment lunaire. C'est rocailleux, c'est rocher, c'est une ascension, il y a des dénivelés positifs et négatifs de 1500 mètres d'altitude, en pleine chaleur. On se levait à 6h du matin pour partir à 7h. Alors, c'est un voyage itinérant. Hein. Mm-hmm. Et puis, donc là, c'est un trek quand même physique, puisque les chevilles en prennent un coup. Là aussi, il faut super bien s'équiper. Mm-hmm. Et puis, là, c'est vraiment un dépassement aussi de soi, parce que la fatigue se fait ressentir là, à ce moment-là, vraiment.
Même pour inhabitués.
Ah oui, oui, oui. Ouais, même pour inhabitués, d'ailleurs, plus d'un, on pouvait pas abandonner parce que là, on était avec des ânes. Hein. Il y a plus de 4x4, hein, là. C'est l'abandon des 4x4. On est livré à nous-mêmes. Il y a plus de réseau. Il y a juste un guide devant vous et vous dépendez de ce guide. Alors là, vous êtes vulnérable aussi. Ça, c'est incroyable parce que là, vous sentez que vous êtes rien, en fait.
On est tout plus à rien. Fait.
Mmh. Ah oui. Ça, c'est vraiment un super voyage. C'est un trekking qui n'est peut-être pas donné à tout le monde. Hein. Il y a vraiment une préparation physique tout de même à avoir au départ. Mm-hmm. Il faut avoir marché quand même un petit peu. Et puis je vous dis aussi, c'est le mental. Alors après, il y a le groupe aussi qui permet aussi d'avancer, qui permet d'être là et puis de se motiver aussi. Hein. Donc, c'est ça qui est beau.
Ça reste une aventure inoubliable, Wolda.
Ah, carrément, carrément. Moi, je dis que... C'est une aventure du corps, mais surtout du cœur, en fait.
Pour moi, merci d'avoir partagé cette aventure avec nous.
Ben, merci à vous, et puis au plaisir.
Prochain challenge, ça sera où?
Ah, ça, je ne sais même pas moi-même.
Donc, c'est au petit bonheur la chance, c'est ça?
Absolument.
Très bien. Ben, on va vous suivre.
Merci à vous.
On vous suit de toutes les façons sur les réseaux.
Bonne journée.
Merci beaucoup, Alda. Merci, c'est incroyable. 150 kilomètres.
Elle a tout dit.
Elle a tout dit.
Elle a tout dit.
Mmh, elle est formidable. Elle est en communion avec la nature,
Elle a tout dit.
Si on devait résumer un petit peu pour les intrépides qui veulent aller, justement.
Moi, je pense qu'il faut garder raison. Donc, quand on est débutant, particulièrement à partir d'un certain âge, même si on pense faire le challenge, il faut aller doucement. Mmh. Se jauger, se connaître. Et progresser.
Rester à l'écoute de son corps.
De son corps, ça c'est important. Commencer par des petites choses, par des petites randonnées d'initiation. Mm-hmm. Elle a tout dit dans son intervention. Donc il y a la condition physique qui est importante. Et quand on dit condition physique, il n'y a pas que le cœur. Il y a l'endurance mentale est importante. Bon, ça, l'endurance mentale, c'est pour les challenges un peu difficiles. Mm-hmm. Ça compte. Mm-hmm. Mais pour les randonnées de moyenne difficulté, donc il faut avoir une bonne condition physique, il faut avoir des bonnes chevilles, il faut avoir le cœur, bien sûr, l'endurance et surtout être encadré.
Super bien équipé. Moi, je veux m'arrêter sur justement super bien équipé. Qu'est-ce qu'il faut avoir avec soi?
La chaussure, c'est la base.
Chaussure et gourde.
Oh, non, la chaussure, on commence par la chaussure. La chaussure, c'est la base d'une bonne randonnée. Parce que si on a des mauvaises chaussures, on va faire une mauvaise randonnée.
D'ailleurs, il y a une expression, on est bien dans ses baskets.
On est bien dans ses baskets, voilà. Donc si on a mal, on aura mal partout. Mm-hmm. Et c'est l'abandon garanti.
Et on ne peut pas enlever de chaussures parce que ce n'est pas possible.
C'est important, les chaussures. Ça, c'est d'une. Ensuite, bon, l'équipement, le reste, il n'y a pas de souci.
Est-ce que c'est des chaussures qu'on trouve dans le commerce?
Oui, bien sûr. Mm-hmm. Bien sûr.
Un peu plus cher, mais...
Maintenant, tout dépend de... ceux qui ont les moyens d'acheter la qualité, la marque. Il y a des marques, bien sûr, les grandes marques, il y a des marques moyennes. Mm-hmm. Voilà. Moi, je pense qu'il vaut mieux... Moi, je pense qu'il faut investir dans l'équipement sportif. Mm-hmm. Il y aura un retour sur investissement. Ça compte beaucoup. Voilà. Investir sur l'équipement. Mm-hmm. Ensuite, bien sûr, le groupe, elle a très bien dit. Le groupe, l'encadrement, le groupe, c'est très important. La solidarité, l'encadrement. Il faut que le randonneur se sente en sécurité.
C'est bien
aussi
qu'il y ait justement cette entente pour pouvoir justement assumer tous ensemble.
Il faut que le randonneur, s'il est débutant, s'il n'est pas trop habitué à ça, il faut qu'il se sente en sécurité. Mm-hmm. Il faut qu'il se dise que quoi qu'il m'arrive,
avec moi.
Il y a les collègues randonneurs, il y a l'encadreur, l'organisateur qui sont là. Il faut qu'il y ait cette sécurité. Il faut que dans sa tête, il n'ait pas ça comme souci.
Mm-hmm. C'est bien d'avoir un médecin avec soi.
C'est
la cerise sur le gâteau, les amis.
Oui, oui. Mm-hmm. Oui, c'est idéal d'avoir un coureur, un randonneur ou un encadreur qui, en même temps, a la casquette de médecin. C'est encore mieux.
C'est pas mal.
Ça donne plus confiance, ça sécurise, ça rassure. Ça rassure le participant.
C'est la saison des rondos, des sorties, des trekking,
j'ai pas
des
fini.
Trails, etc.
Est-ce qu'on met la beauf? Tu parlais de
beauf. Oui. Moi, j'ai besoin d'avoir justement avec moi quelque chose.
Voilà. Donc, pas trop quand même. Pas trop.
Pas de sucre.
Pas trop. Donc, prendre un petit déjeuner.
Favoriser les fruits, pourquoi pas.
d'abord prendre un petit déjeuner comme d'habitude. Donc c'est déjà de la réserve. Mm-hmm. Ensuite, si c'est une randonnée de quelques heures, qui n'est pas trop physique.
C'est bien une petite banane.
Voilà. Donc il faut pas que ce soit un pique-nique. D'accord. Il faut pas que ça se transforme en pique-nique.
Mais
voilà.
Pas un petit sandwich.
Un petit ou tout des petit. Petites choses, des dattes, du raisin sec, des choses comme ça, surtout de l'eau.
Il faut s'hydrater,
oui.
Et si on devait donner un petit conseil justement à ces boîtes qui ont fleuri à travers le territoire national et qui organisent justement ce genre de challenge?
Il y a de très bonnes agences, je les connais, je connais quelques-unes. Mm-hmm. Ma femme a l'habitude de sortir avec eux. Donc c'est des agences très sérieuses qui mettent le participant au centre de leur objectif. Donc qui dit centre, ça veut dire offrir un parcours sécurisé, avec le moins de risques, voilà, un parcours accessible à la majorité. Donc ils vont pas proposer des parcours très lents, fatigants, où on risque de se casser la gueule. Ils font jamais ça. Ensuite, il y a le guide. En général, c'est des guides encadreurs. En général, c'est des jeunes. Je les vois. J'ai même été avec certaines agences. Ils ramènent des jeunes. Donc, c'est des jeunes qui ont 3 ou 4 casquettes. Donc, guide, encadreur, secouriste, le cas échéant, parce qu'ils sont costauds. Mmh. Donc, si jamais il y a un incident, un accident, ils pourraient éventuellement porter la personne, l'aider.
Un petit couteau suisse.
Voilà, c'est un couteau suisse. Exactement. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Donc, je conseille à ces agences
d'être vigilant sur certaines choses.
Voilà, de ne pas sombrer que dans le profit.
Exactement.
Tendance. Mm-hmm. Voilà. Pensez à la santé et sécurité du randonneur.
Vous avez remarqué, les amis, on n'a pas parlé de l'ultramarathon. Ça sera le sujet d'une autre émission avec M. Elsri Laras. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci pour l'invite.
Merci, docteur. Je rappelle que vous êtes le président de l'UMTS, l'Ultramarathon Trail Swedania.
Exactement.
C'est ouvert à tout le monde. Si on vient à Swedania, si on cherche sur Internet, on vient, on vient chez vous, on peut adhérer.
Oui.
Et commencer l'aventure.
Oui. Oh bah, voilà. On donnera la carte.
L'ultramarathon, ce n'est pas pour cette année non plus, en ce qui me concerne.
Ça va plus. Très bien. Vous avez la vie devant vous.
Merci beaucoup. Merci au docteur Hamid Werden qui était avec nous en direct de son cabinet. Un grand merci aussi à notre aventurière Warda. Voilà, on arrive à la fin de notre émission spéciale. Profitez, faites des randonnées, sortez, mais soyez vigilants. Down.